Retrouvez vite La France Bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, nous allons découvrir des Françaises et des Français qui se retroussent les manches pour faire vivre leur entreprise dans cette période compliquée. Ici, c'est simple, on trouve des solutions, elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Alors comment faire en sorte que des femmes montent de plus en plus d'entreprises? Comment faire en sorte que les financements arrivent aux femmes aussi facilement qu'aux hommes? Eh bien, on va peut-être avoir la réponse et pour cela, on a invité Céline Lazorte qui avait fondé Litchi. Elle a lancé le collectif Sista et en cette journée des droits des femmes, elle est notre invitée jusqu'à 14h.
À la une, en effet, les femmes dans des métiers d'hommes. Notre invitée, Anita Bonnard, l'une des dirigeantes d'ArcelorMittal, elle dirige plus de 2000 salariés. Et elle nous racontera comment être une femme et une patronne est un atout dans le monde de l'entreprise.
Elle fut la première femme à diriger une maison de champagne et ça avait détonné à l'époque. Elle porta haut les couleurs de la maison Veuve Clicquot. La Veuve Clicquot sera notre saga du jour.
Chaque jour dans La France Bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance aujourd'hui avec notre partenaire CCI France. Nous avons retenu pourquoi Princesse, une marque de vêtements filles-garçons, aucunement genré. Ce projet tient-il la route? Réponse à 13h45.
Et puis demain au travail, chez OEBA, on offre un jour de congé pour l'anniversaire de chaque salarié. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, soyez là au rendez-vous à 13h50.
Et c'est ça, La France Bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Et oui, bien sûr qu'elle bouge cette France en cette journée internationale des droits des femmes. Elle bougerait sûrement encore mieux s'il y avait plus de femmes à la tête d'entreprise. Comment justement peuvent-elles prendre leur place dans le monde de l'entreprise?
Et on va en parler avec vous, Céline Lazorte. Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Vous êtes à l'initiative du collectif Sista, un collectif créé il y a 2 ans par 22 femmes à l'origine pour imposer la mixité dans l'économie numérique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Céline Lazorte, vous êtes aussi la fondatrice de Litchi ainsi que de Mangopay. Alors déjà, on va commencer, si vous le voulez bien, par le constat. Alors ça peut vous paraître peut-être anecdotique, mais nous, avec Emmanuel Duteil, quand on prépare les interviews de La France Bouge et que l'interlocuteur a le choix entre nos 2 numéros de téléphone, c'est très sérieux, hein, et bien il appelle systématiquement sur le téléphone d'Emmanuel.
Oui, on peut le dire, hein, je pense, parce qu'il imagine que c'est moi qui commande plus qu'Elisabeth, alors qu'on est à 50-50.
Tout à fait. Alors, autre exemple, on peine, nous, dans La France Bouge, on peine ici à trouver des femmes comme vous, Céline Lazorte. Et pourtant, je peux vous dire que l'équipe, hein, Dora, Quentin, Charlotte, se démène pour en trouver. Mais il n'y a que 3 femmes PDG d'une entreprise dans les 120 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. Céline Lazorte, pourquoi le changement est-il si lent?
Ah, le changement est lent parce que c'est intégré dans nos cultures et que c'est vrai qu'il y a peu de rôle modèle. Donc parfois, on a l'impression que c'est impossible. Il y a des plafonds de verre et pourtant, il faut que collectivement, on arrive à les briser. Parce que quand il y aura plus de diversité, il y aura plus d'innovation, plus de performance, plus de richesse. Et je crois un monde plus juste est un monde plus heureux aussi.
Alors justement, on va prendre un autre exemple dans les startups, hein, qui est le sujet que vous défendez. L'an dernier, 90% des financements sont allés à des équipes 100% masculines. Ouais. C'est fou quand même. Là encore, ouais. Comment on l'explique? C'est toujours le plafond de verre?
Oui, c'est malheureusement l'entre-soi. C'est vrai que le monde de la finance est plutôt un monde d'hommes. Le monde du private equity est un monde d'hommes. Et donc, c'est vrai que par habitude, par biais cognitif, je ne pense pas que ce soit un choix volontaire pour la plupart, eh bien, on va plutôt vers ceux qui nous ressemblent. Donc, il faut aussi féminiser ceux qui décident. Et c'est une des démarches de Sista, encourager les fonds à avoir plus de femmes qui décident.
Et pourtant, les femmes, quand elles lèvent des fonds, elles enlèvent moins aussi, elles lèvent moins d'argent. Pourquoi ?
Ça, je pense que malheureusement, c'est vrai qu'on n'entreprend pas de la même manière quand on est une femme et quand on est un homme. Et
ça
c'est
veut
vrai
dire
que,
quoi, on n'entreprend pas de la même manière? Qu'est-ce qui nous différencie?
Les raisons d'entreprendre ne sont pas les mêmes. Souvent, l'homme va avoir une approche, vous voyez, business, empirique. La femme va avoir peut-être parfois une approche basée sur son métier de scientifique, d'artisane. Donc on a une approche, vous voyez, plutôt bottom-up, comme on dit. Et donc parfois, les femmes n'ont pas forcément l'expertise financière. Et donc, elles ont l'habitude de demander le financement dont elles ont besoin.
Mais est-ce que c'est vrai cet argument encore aujourd'hui? Parce que quand on regarde les grandes écoles, la féminisation, là, est en marche. Quand vous regardez les promos d'HEC ou ce genre genre de choses. Mmh. Il y a quand même une qualité de formation des femmes qui est
absolument
maintenant depuis des années présente.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une sorte de retenue? On l'a vécu une fois ici à La France Bouge, au moment du pitch tout à l'heure, vous verrez, une femme va également venir défendre son projet. Et elle n'avait pas demandé beaucoup d'argent, elle disait « j'ai pas beaucoup de besoins ». Et c'était la patronne de Mythique qui était à côté d'elle qui lui dit « mais bon sang, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas besoin d'argent ». Est-ce qu'il y a cette retenue?
Alors, ce qui a été prouvé, c'est que les femmes, elles demandent ce dont elles ont besoin. Alors que les hommes demandent probablement
ils n'ont pas besoin.
Beaucoup plus. Non, mais ils demandent plus, trois fois plus. Et donc, un VC, donc un investisseur, lui, il va prendre un business plan et il va se dire, OK, si elle dit qu'elle va faire 100, en réalité, dans les faits, elle va faire 50. Et c'est la même chose pour un homme. Donc, on va financer à cette valorisation-là. Donc, en fait, du coup, les femmes se retrouvent avec des plus petits budgets et des montants de valorisation inférieurs. Par contre, une femme, quand elle dit « je vais faire 100 », en fait, elle fait 100. Donc, vous voyez, on n'a pas la même approche. Les hommes vendent plus.
Ils savent mieux se vendre ?
Ils savent mieux se vendre. Ils sont habitués à mieux se vendre. Ils sont habitués à prendre la parole en public. Ils sont habitués à maîtriser
pas les femmes.
L'espace. Moins, malheureusement. Regardez la cour d'école. Dans la cour d'école, c'est les garçons qui jouent au foot et les filles qui jouent aux billes. Et donc, ça limite...
Et les billes, vous êtes sympa. Hein.
Non, mais au POG, vous voyez, à tout ce genre de choses-là. Et donc, c'est vrai que, par exemple, dans la capacité à aller de l'avant, à être combatif, du coup, c'est vrai que les garçons, les petits garçons, sont plus éduqués à cela que les petites filles.
Mais si on reste toujours sur ce monde des startups, je vais prendre un autre chiffre que vous mettez en avant sur votre plateforme Sista. L'an dernier, seulement une startup sur cinq a été créée par une femme.
Ouais.
Pourquoi il y a si peu de projets? Parce que là encore, quand on regarde la tessature des écoles, les femmes sont là pourtant.
C'est vrai. Alors, les choses évoluent parce que entre 2019 et 2020, on a gagné 4 points. Donc, ça va en s'améliorant. Mais c'est vrai qu'il y a un réel plafond de verre. Moi, quand j'ai démarré il y a maintenant 12 ans, il y avait 10% de femmes entrepreneurs. Donc, finalement, on n'a pas fait un énorme pas. Je pense qu'il y a une absence de rôle modèle.
Ça devrait être quoi le rôle modèle?
La diversité.
Un monde idéal.
Montrer que finalement, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour entreprendre. Il y a besoin de beaucoup de travail, il y a besoin d'énergie. Mais on peut aussi être épanoui en entreprenant quand on est une femme. Donc ça, je pense que c'est des messages qu'il faut transmettre, que l'accès au financement devient possible et que créer son job, c'est possible grâce à l'entrepreneuriat.
Et on va continuer à s'épanouir avec vous, Céline Lazorte. Vous êtes à l'initiative du mouvement Sista. Vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Une France bouge spéciale en cette journée internationale des droits des femmes. Comment faire évoluer les mentalités? Comment faire en sorte qu'il y ait plus de femmes à la tête des entreprises, mais pas seulement dans tous les comités de direction? C'est ce que l'on voit aujourd'hui avec notre grande témoin du jour, Céline Lazorte. Elle est à l'initiative du mouvement Sista.
Et comment trouver sa place dans l'entreprise quand on est une femme et que l'on accède à des postes de patron et encore plus dans l'industrie lourde? Vous savez, cette industrie très masculine. Bonjour Anita Bonnard.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes en ce moment même à Montaterre dans l'Oise, sur l'un des sites d'ArcelorMittal. Vous êtes directrice industrielle chez ArcelorMittal. Vous dirigez plusieurs sites du groupe en France et vous dirigez plus de 2000 salariés. Quand on parle de sidérurgie, Anita Bonnard, on pense, dans l'inconscient collectif, on pense à un homme fort, parce que c'est un milieu où il faut avoir de la force pour piloter des machines. Tout cela, est-ce que tout cela est terminé?
Oh, absolument, parce que je pense que là, vous avez encore une image qui est assez ancienne de la sidérurgie et qui fait appel surtout aux usines du chaud où on voit cet acier en fusion, ces immenses hauts fourneaux. Mais il faut voir que tout ça, ça se pilote dans des cabines. C'est complètement automatisé, donc franchement, on peut faire 1m60 et 50 kilos et absolument piloter des engins immenses. Il n'y a plus besoin de cette force qui est très masculine. Beaucoup de métiers sont occupés par des femmes aujourd'hui chez ArcelorMittal. Et la place des femmes est de plus en plus grande. Et je peux vous assurer que... elles sont là et elles seront dans les comités de direction futurs sans
problème. Ça, vous en êtes certain de ça? Parce que je vais aller regarder l'organigramme ce matin d'ArcelorMittal. Vous n'êtes pas 50 femmes directrices générales et encore moins directrices industrielles avec 2000 collaborateurs sous vos ordres. Si on prend votre simple exemple, Anita Bonnard, comment vous y êtes arrivée? Quel conseil vous donneriez?
Alors moi, j'y suis arrivée progressivement. mais surtout par choix. J'ai commencé en recherche et développement parce que c'est ce qui me semblait le plus facile pour intégrer une grande entreprise comme ArcelorMittal. Mais après 7 ans, je suis allée voir le directeur du site auquel j'étais attachée à l'époque et je lui dis voilà, je veux un poste en usine. Et il m'a à ce moment-là été fait proposition de 2 postes, un plutôt dans la continuité de la recherche appliquée et un plutôt en management. Et j'ai vraiment choisi le management et c'est vraiment un choix et une envie de m'approcher au plus près des organisations. Alors très masculine à l'époque, mais des organisations.
Mais même encore aujourd'hui, vous êtes un peu seule quand même, non ?
Alors je suis un peu seule dans un poste de direction, mais je ne suis absolument pas seule dans les postes très proches de la production. Certes, il n'y a que 14% de femmes chez ArcelorMittal aujourd'hui quand on prend tous les métiers, y compris les métiers en poste, mais dans certains métiers très proches de la production et particulièrement en process. En développement produit, on atteint quasiment les 30 à 40% de femmes, alors voire ça... plus dans certains services.
Alors, ce que vous nous décrivez, c'était dans les années 90. Hein, c'est... Aujourd'hui, on a envie de penser que c'est très différent, mais j'en suis pas certaine. Comment vous avez fait, Anita Bonnard ? En fait, vous êtes allée voir le directeur. J'ai envie de vous demander comment vous vous êtes vendue ? Comment vous avez fait en sorte qu'il vous choisisse et qu'il vous dise « Ok, banco, je vous fais confiance, Anita, vous allez prendre un poste de direction. » Comment vous avez fait ?
Alors bon, je pense que le directeur de l'époque a fait le choix de la compétence, mais je suis persuadée qu'il s'est posé la question encore aujourd'hui, que se posent nos patrons, c'est est-ce qu'elle va y arriver ?
Mais pourquoi on se pose cette question ?
Est-ce qu'une femme peut y arriver ?
Mais pourquoi on se pose cette question quand il s'agit d'une femme ?
Ah, ça, je pense que c'est culturel et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que la place des femmes soit vraiment reconnue dans des postes à responsabilité, même si sur les bancs de l'école, on est parfois 1 sur 2. Quoi.
Et ça signifie que vous avez prouvé doublement que vous étiez à la hauteur de ce poste une fois qu'il a accepté de vous le confier ?
C'est clair qu'il faut, comme tout poste, que ça soit homme ou femme, démontrer sa compétence. Mais c'est clair que pour une femme, il faut savoir trouver sa place. Il faut être tenace. Je pense qu'il faut avoir du courage, savoir faire face, savoir parfois composer avec des collègues masculins qui vous regardent différemment. Mais mon vécu fait que. Avec mes collaborateurs, je n'ai jamais eu de soucis. Le plus gros challenge pour moi était de me positionner effectivement dans le premier comité de direction dans lequel j'ai été.
Justement, alors on ne va pas dévoiler un secret, mais vous partez très bientôt à la retraite après cette super carrière. C'est une femme qui va vous remplacer ?
Ah non, malheureusement, c'est un homme.
Mais pourquoi ?
C'est un homme.
Il n'y avait pas de femme ? Personne n'a eu envie ?
Je pense que dans les plans de succession immédiats, il n'y avait pas de femme. Par contre, dans le suivant, probablement qu'on pourra envisager une femme tout à fait.
Céline Lazorte, quand on entend le témoignage d'Anita Bonnard, donc, qui est l'une des dirigeantes d'ArcelorMittal, elle a dit qu'il fallait... Le patron se dit toujours... va-t-elle y arriver quand c'est une femme ? Et je vous voyais approuver, hein, dire bah « Oui, évidemment, on se pose toujours cette question ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la femme doit doublement montrer qu'elle est à la hauteur ?
Anita
mais
Bonnard,
c'est pas elle qui se met dans cette condition-là aussi.
Elle l'illustre bien. Ah non, mais elle dit j'ai commencé par la R&D parce que c'était ce qui était le plus accessible. Ensuite, elle dit j'ai attendu 7 ans. Et puis elle finit par dire il faut être tenace. Non, il faut être compétente.
Composer. Un homme dirait j'aurais dû composer.
Il devrait suffire d'être compétente et pas d'être patiente, tenace, de passer par la fenêtre quand la porte s'ouvre pas. Donc je pense qu'effectivement il y a une prise de conscience collective qui doit se faire. Les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Elle n'a pas besoin d'attendre 7 ans pour accéder à un poste auquel un homme, lui, n'attendrait
ouais,
pas 7 ans.
Mais alors on peut aussi se dire elle prend son temps, elle prend le temps de ses ambitions, ce que ne fait pas forcément un homme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement à avoir d'attitude du côté de la femme ?
Alors, moi, je trouve qu'on culpabilise beaucoup les femmes en disant « Attendez, vous avez qu'à faire. »
Non, non, sans culpabiliser, non, on se pose la question.
C'est souvent ça, il y a l'empowerment, c'est ça, c'est bah, « Allez-y, faites. » Et puis, non, en réalité, il y a des vrais plafonds de verre qu'il faut briser collectivement. On le voit, les comics sont très peu féminisés. On a beau dire « Il faudrait mieux ces sources de performance. » Personne ne féminise. Copé Zimmerman, 10 ans plus tard, c'est 46% des femmes qui sont au conseil d'administration de nos entreprises françaises. Mmh. Et donc, c'est nécessaire.
C'est nécessaire. En tout cas, merci à vous, Anita Bonnard. Merci pour votre témoignage. Vous êtes directrice industrielle chez ArcelorMittal. Vous dirigez plus de 2000 salariés. Merci, merci à vous.
Et on vous garde, Céline Lazorte, à l'initiative du mouvement Sista. Et justement, on va voir comment on peut faire en sorte, peut-être en mettant des quotas pour avoir plus de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises.
La France bouge continue avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
France bouge spéciale en cette journée internationale des droits des femmes, même si chaque jour on essaye de mettre en avant, ici comme partout sur l'antenne d'Europe 1, les femmes qui réussissent, les femmes qui ont des choses à
qui
dire.
Qui osent.
Et qui osent tout simplement, effectivement, comme le dit si bien Elisabeth Assayag. Alors nous sommes avec l'une de ces femmes qui a très bien réussi, Céline Lazorte, qui est la fondatrice du collectif Sista, mais que vous connaissez aussi peut-être, puisqu'elle avait fondé, même si maintenant elle n'y a plus de fonction, cette cagnotte en ligne Litchi qui nous a changé la vie quand on a des cadeaux à faire en commun. Alors justement, parlons un petit peu de Sista. Vous l'avez créé avec plusieurs femmes pour faciliter les financements au féminin, principalement dans l'économie numérique. De façon très concrète, comment vous aidez justement ces projets féminins ?
Alors effectivement, j'ai créé Sista avec Tatiana Jama et Valentine de Lastérie. L'ambition, c'est l'émergence d'un écosystème de leaders diversifiés. Nous, on est convaincus qu'il faut que les dirigeants, ce soit le reflet de la société civile, pas mieux, pas moins bien. Et donc pour ça, effectivement, on se base sur l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs, parce qu'en fait, on dit souvent « cash is king », moi je préfère « cash is queen ». On a besoin d'argent pour développer ces entreprises. Donc le rôle de Sista, c'est effectivement de sensibiliser, de compter les femmes pour que les femmes comptent, et de montrer aujourd'hui que malheureusement, le financement, il est encore quasiment exclusivement masculin. Mmh. Or, on a besoin de financement pour développer ces boîtes. Et donc, on fait ce travail-là d'identifier les femmes, des programmes pour les entrepreneurs, des chartes pour le private equity pour s'engager à plus de féminisation. Et puis mon rôle à moi en femme, de femme qui est la place et la parole dans les médias, c'est aussi de donner la place à mes sœurs. Donc je vous ai fait une liste de 50 femmes à inviter
vous nous avez apporté un, vous avez apporté un petit papier.
Un petit papier chacun parce que avec 50 noms de femmes dirigeantes ou CEO que vous pouvez inviter parce que je crois que c'est ça la responsabilité quand on a la parole, c'est aussi de tendre la main à ses sœurs et de les mettre en avant parce qu'il y a un truc qui m'ennuie moi personnellement, c'est que je suis souvent, et ça me fait très plaisir de passer du temps avec vous, mais invité parce que je suis visible, mais il faut donner de la place à toutes.
C'est ce qu'on essaie de faire chaque jour, nous, à la France.
Mais on va la regarder. Je peux vous assurer qu'on fera un point à la fin de saison. On verra combien on est.
Pourtant, votre exemple, Céline Lazorte, montre bien que l'on peut y arriver. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on doit retenir. Qu'aviez-vous et qu'avez-vous de plus que les autres ? Qu'avez-vous osé de plus ?
Je pense que j'avais la naïveté pour moi.
Vous dites qu'il faut que les femmes se vendent et vous nous dites j'étais naïve.
Non, mais j'étais naïve aux barrières.
Il n'y a aucun homme qui dira
j'étais naïve aux barrières. Ah, oui. Donc je n'ai pas vu, vous voyez, que c'était impossible. Mais c'est vrai que par exemple, pour le financement de Litchi et Mangopé, j'ai levé 7 millions d'euros pour tout le financement de toute la boîte. C'est très peu. Un homme aurait peut-être levé 50 ou 70 millions d'euros. Donc en réalité, je me suis aussi battue avec les moyens qu'on m'a donné et rendu possible. Donc c'est vrai qu'il y a des tas de barrières, mais ce qu'il faut dire aux jeunes femmes et aux femmes d'ailleurs, c'est qu'entreprendre, c'est possible, c'est une vie très riche, faite de rencontres passionnantes et qu'elle est compatible avec les rêves des uns et des autres. Et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait juste moins de femmes en fait.
Parce que ce qui est impressionnant quand on regarde les chiffres et toutes les études le montrent, c'est vrai pour les start-up, mais c'est vrai, je crois, pour toutes les boîtes. Les start-up dirigées par des femmes, je crois, sont 2,5 fois plus performantes que des entreprises dirigées par des hommes. Ça s'explique comment ? C'est parce que celles qui y arrivent sont tellement le haut du pavé qu'elles sont extraordinaires ou que tout simplement ça marche mieux quand on est une femme.
Non, c'est parce que c'est la diversité qui est une source de richesse. C'est parce que si on est tous les mêmes autour de la table, on pense de la même manière et donc on résout un problème de la même manière. Si on est 10 personnalités différentes, on a 10 solutions possibles différentes. Donc vous voyez bien qu'on va forcément plus vite. C'est ça la richesse dans la diversité et donc ces fruits d'innovation. Mais c'est vrai que les clichés ont la vie dure parce que je vous ai raconté la petite anecdote. J'ai été nommée au conseil d'administration de la SNCF et d'Iliad il y a déjà quelques mois. Quand j'ai raconté ça à un dirigeant de la tech, qui m'a dit, mais naïvement, ah, c'est vachement bien la discrimination positive.
Mais non, je ne suis pas là parce que je suis une femme, je suis là parce que je suis compétente. Je n'ai pas toutes les compétences, mais j'en ai certaines à apporter sur la table.
Alors comment faire pour arrêter ce genre de réflexion, ce genre de remarque? Dire que c'est de la discrimination positive, mais c'est bien parce que vous avez les compétences pour cela.
Qu'on n'aurait jamais dit ça à un homme qui aurait fait la moitié de votre carrière. Hein.
C'est gentil. Mais c'est vrai que moi, ça m'a créé quelque chose où à chaque fois que je passe la porte d'un des boards, je me dis « Ah putain, t'es là parce que t'es une femme ». Alors c'est dur en fait. Du coup, cette phrase-là, elle a un poids pour moi qui est important. Mais passons parce que c'est un détail.
Non, c'est pas un détail. Ben, vous voyez, on pense exactement la même chose avec Elisabeth. C'est d'autant pas un détail que ça pose la question très importante des quotas. Ouais. Parce que effectivement, si vous êtes entrée dans ces conseils d'administration, c'est sûrement
quota.
Parce que vous êtes une femme. Moi, j'ai eu un grand patron homme qui m'a dit quand cette loi est passée, bon sang, on va jamais y arriver, il n'y a pas assez de femmes compétentes. Ce qui est faux, bien évidemment, puisqu'on le voit, on a 44% aujourd'hui de
46,
femmes,
ouais.
46% dans les conseils d'administration. De façon très concrète, là encore, est-ce qu'il faut élargir les quotas aux ce qu'on appelle les COMEX, qui sont vraiment les endroits où on dirige une entreprise, et peut-être même aux fonctions dirigeantes? Il y a une proposition de loi de la majorité qui va peut-être aller en ce sens.
Absolument, moi je suis pour. Il y a 10 ans, je n'étais pas pour et puis j'ai compris ce que c'était que les inégalités dans le monde de l'entreprise. Et donc je suis pour les quotas et je salue l'initiative d'ailleurs d'une quarantaine de patrons qui ont annoncé ce matin qu'ils allaient mettre au moins 30% de femmes dans les COMEX et qu'ils s'auto-appliquaient cette règle-là. Et je pense aussi que la société, elle doit évoluer collectivement, mais c'est aussi au gouvernement et à la loi plus largement de protéger les minorités. Je ne dis pas que c'est... Moi je ne suis pas pour les femmes, je suis pour les minorités.
Dans La France Bouge, chaque jour, Céline Lazorte, on découvre un produit, une marque ou un endroit qui font la fierté de notre pays. Gros plan aujourd'hui sur l'une des toutes premières femmes chefs d'entreprise en France. On la surnomme la Grande Dame du Champagne. Elle est devenue veuve à l'âge de 27 ans et elle va oser, elle va innover. Elle invente même des techniques de vente. Et d'ailleurs, on la reconnaît, Emmanuel, à son étiquette orangée.
Oui, effectivement, tout le monde la connaît. Vous connaissez vous aussi très bien puisque la veuve Clicquot a elle-même créé un prix qui soutient l'entrepreneuriat au féminin. Et je crois que c'est en 2014 que vous aviez été la lauréate de la veuve Clicquot, qui est donc notre saga du jour, racontée aujourd'hui par Dora Nana.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Cette maison de champagne ne serait rien sans une femme, Madame Clicquot. Veuve en 1805, Barbe Nicole va reprendre les rênes de l'entreprise à seulement 27 ans, à une époque où les femmes n'ont ni compte bancaire, ni le droit de travailler. Jean-Marc Gallo, président de Veuve Clicquot.
C'est vraiment une précurseur, puisque en 1805, quand elle reprend les rênes de la maison Clicquot, on pense que c'est une des toutes premières femmes entrepreneurs en France, puisque la loi ne permet pas à une femme de diriger une entreprise, sauf si c'est une société familiale et que c'est une veuve qui souhaite reprendre l'entreprise. Son beau-père, d'ailleurs, fait tout pour la dissuader de diriger l'entreprise. Et tout le monde l'observe un peu de haut en se disant qu'elle va faire un travail assez médiocre à la tête d'une maison de champagne.
Et c'est tout le contraire qui va se produire, car cette femme est très déterminée et perfectionniste. En quelques années, elle va révolutionner le secteur, elle va créer le champagne millésimé, elle va inventer le champagne rosé, elle va même jusqu'à créer la table de remuage, un procédé qui permet de faire descendre les impuretés et d'avoir un champagne limpide. Autant d'inventions qui vont être adoptées par la profession et qui vont lui valoir le surnom de Grande Dame de la Champagne. Ambitieuse, elle ne manque pas de culot et d'audace et n'hésite pas à braver les interdits quand il s'agit de faire connaître son champagne hors de nos frontières.
Pendant la guerre avec les Russes, en 1814, alors qu'il y a un blocus, elle décide néanmoins d'envoyer des bouteilles de champagne vers la Russie. Cette volonté à tout prix de pouvoir faire connaître ce champagne était sa marque de fabrique. Cette audace, cette détermination, cette volonté toujours d'aller plus haut et de toujours viser le meilleur quant au champagne Veuve Clicquot.
Victime de son succès, son champagne s'arrache, mais est aussi copié. Elle va alors avoir l'idée de le différencier grâce à une étiquette originale.
Ce fameux jaune Clicquot, c'est effectivement une marque de reconnaissance absolument formidable à travers le monde. Et l'histoire voudrait que là où toutes les étiquettes étaient blanches, elle voulait se démarquer sur la cuvée Veuve Clicquot et qu'elle avait l'habitude au petit déjeuner de prendre un œuf à la coque et que c'est la couleur du jaune d'œuf qui lui a donné l'inspiration de faire une étiquette jaune pour la bouteille Veuve Clicquot.
Cet état d'esprit va perdurer au fil des siècles. 200 ans plus tard, en 1972, la maison va créer un prix afin de récompenser les femmes d'affaires à une époque où elles font encore figure d'exception. En 50 ans, ils ont récompensé plus de 350 femmes dans 27 pays. Leur engagement se poursuit encore aujourd'hui. Il y a un an, ils se sont associés au collectif Sista pour aider les jeunes femmes chefs d'entreprise dans toutes leurs démarches grâce à des mentors. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Fidèles à l'audacieuse Veuve Clicquot, ils vont développer ce réseau à l'international.
C'était la saga du jour racontée par Dora Nana. Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, on vous présente souvent comme ça, même si maintenant c'est plus votre activité. Vous êtes en plus ici pour le collectif Sista que vous avez lancé, qui soutient l'entrepreneuriat au féminin. Là, quand on entend ce que fait Veuve Clicquot, le soutien qu'ils peuvent apporter aux femmes chefs d'entreprise, ça a été utile par exemple dans votre carrière, le prix que vous avez reçu ?
Alors, le prix, oui, m'a permis d'avoir accès à un réseau, une reconnaissance. Effectivement, ça m'a aidée dans mon projet professionnel. Et je tiens à souligner qu'avec Veuve Clicquot, on a aussi mis en place un programme qui s'est appelé Sista Bold. C'est 1000 heures de coaching pour des femmes dirigeantes. Ça a été très apprécié. On devrait le continuer l'année prochaine. Et je pense que c'est ça, vous voyez, des pierres à l'édifice de la cause des femmes. C'est des entreprises qui s'engagent, comme l'a fait Veuve Clicquot, à nos côtés.
On va continuer à en parler avec vous, Céline Lazorte. Vous êtes à l'initiative du mouvement Sista. On va faire maintenant quelque chose que vous connaissez parfaitement, puisque vous allez donner votre avis sur un projet d'entreprise à l'occasion du pitch des trophées Europe 1, la France bouge.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bien sûr qu'elle bouge, cette France. Merci à vous de nous suivre chaque jour en direct sur Europe 1 de 13h à 14h. C'est une émission spéciale pour soutenir toutes ces femmes qui veulent devenir entrepreneurs. Mais on essaye chaque jour, ici, dans La France bouge, de mettre en avant des femmes. On a pris un engagement au début de saison qu'on serait à 50% d'hommes et de femmes à la fin de l'année. Non. On n'y est pas encore totalement, mais on
va y arriver.
On travaille
dur pour y arriver.
Et on doit surtout progresser sur les grands patrons. Donc là, si vous avez des grandes patronnes, si vous êtes une grande patronne, que vous êtes en voiture, que vous êtes dans votre bureau, que vous avez envie de venir à La France bouge, sachez que l'on vous invite d'ores et déjà. Et on passe tout de suite à notre pitch avec notre grande témoin du jour, Céline Lazorte, qui est à l'origine du mouvement Sista et qui, attention, vous donnez des conseils, et Nathalie Carré de la CCI qui est également dans les starting blocks.
Et là encore un projet d'entreprise qui a à peine quelques mois par une entrepreneure qui n'en est pas à sa première boîte. Elle a osé se lancer en ce moment en pleine période de crise sanitaire et on vous le montre ça aussi. Chaque jour dans La France bouge, quelle que soit la période, si on a une idée, si on a une envie, eh ben, il faut y aller, il faut oser.
On va pas dévorer tous les mots non plus.
Bonjour Laura Drouet.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous avez 42 ans et vous avez cofondé Pourquoi Princesse, une marque de vêtements qui, vous le dites, c'est pas moi, qui casse les codes entre les filles et les garçons. Vous dites par exemple des vêtements pour les filles qui veulent être plus que des princesses. J'ai bien aimé cette accroche sur votre site internet. Alors c'est quoi des vêtements qui cassent les codes entre les filles et les garçons? On écoute votre pitch, vous avez une minute.
À 6 ans, les filles se croient moins brillantes que les garçons. Et cette pensée a un impact direct sur leur avenir. Seulement 18% des étudiants en polytechnique sont des filles. Et les femmes sont surreprésentées dans la tech et les sciences. Ma fille adore les maths, les voitures. Je ne veux pas qu'elle grandisse dans un monde où ses choix sont associés aux garçons. Pourquoi Princesse est la marque pour enfants qui a comme mission de faire avancer l'égalité filles-garçons? Nous imaginons des vêtements qui cassent les codes, comme nos robes au motif dinosaure ou fusée, ou notre combi pilote. Chaque collection est accompagnée d'un cahier d'activités pour faire découvrir les femmes extraordinaires aux enfants. Nos produits sont dispos sur pourquoiprincesse.fr et chez quelques revendeurs. Notre grande mission, c'est de devenir la référence mondiale pour l'égalité.
Et ben voilà, on dit parfois que les femmes manquent d'ambition. Vous en êtes la preuve que c'est possible d'aller contre ce manque d'ambition. Vous voulez devenir donc un leader mondial. Bravo à vous.
Bravo à vous, Laura. C'était un très bon pitch, très clair. Si vous nous suivez en direct sur Europe1.fr, on a quelques échantillons. Enfin non, on a une petite robe, la fameuse petite robe molletonnée avec des dinosaures ou la fameuse combinaison. Alors Laura, je vous présente Nathalie Carré de la CCI. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Laura, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Nathalie, vous avez étudié et analysé le business plan, comme on dit, le projet de Pourquoi Princesse. Quelles sont les forces et les faiblesses ?
Alors, trois forces déjà. Sur le site, vous démarrez en présentant la combinaison, qui devient un peu du coup votre vêtement phare. C'est génial parce que la combi, c'est super pratique. Ça a été remis à la mode pour les filles. Ça se porte en toute saison. C'est vraiment la tenue idéale. En plus, j'en avais une quand j'étais petite et je l'adorais. Le deuxième point, le juste ton. Le sujet peut être sensible, mais votre discours, il est objectif, il est juste, il est sensible. Et donc, accessible au plus grand nombre. Et puis le site est bien documenté, il est coloré, vous avez créé un vrai univers, donc également avec des accessoires et un blog. C'est tout l'univers des filles qui veulent être plus que des princesses. Je mettrai un point amélioré, les prix restent raisonnables pour du Made in France, mais ne sont pas accessibles à toutes les bourses. Or, l'état d'esprit que vous voulez insuffler concerne vraiment tout le monde. Deux idées peut-être, proposer la version occasion à plus petit prix, en plus ça va dans votre démarche écologique, et puis peut-être mettre en avant les accessoires, les écussons, les affiches qui sont plus accessibles et qui permettent quand même aux personnes moins aisées d'accéder à cet état d'esprit d'automisation, je le dis en français, des filles. D'autonomisation.
Autonomie.
Oui, je disais rien, mais je comprenais rien au bout de mon.
On a compris.
Empowerment. C'est parce que si je dis en anglais, vous alliez me le rattraper.
Vous avez bien fait, Nathalie. C'est vachement intéressant, Laura, ce que vient de vous dire Nathalie, justement, sur cette histoire de pourquoi pas prendre des petits écussons, les vendre à l'unité pour qu'on ait cette espèce de code. Voilà, on porte des habits de filles, mais on a aussi des codes de garçons parce qu'on peut être les deux.
Déjà, merci pour ces conseils. On est tout à fait d'accord. On a une démarche qui est égalitaire et éco-responsable et éthique. Donc, du coup, avec le Made in France et Made in Europe, c'est clair que les vêtements sont plus chers. Et en fait, on
vient... Il faut qu'on
donne
le prix. Hein. La robe à manches longues, c'est 65€, 64,90€. Et la combinaison, c'est 54,90€.
Et en fait, on a suivi vos conseils déjà parce que ce week-end, on avait mis les écussons disponibles sur le site. Et en plus, on a créé les cahiers d'activité à un plus faible prix, à 15€ par trimestre, parce que ça va sortir en abonnement, justement pour cette raison, pour que ça soit plus accessible à tout le monde.
Sur l'étiquette Pourquoi Princesse, il y a écrit Gender Equal, égalité des genres, 100% inclusive, super pouvoir et créativité, 100% positif et bio. Hein. Tout ça, c'est une dose, un shoot d'ondes positives. Je me tourne vers vous, Céline Lazorte, vous êtes à l'initiative du collectif Sista, grand témoin du jour. Quel regard portez-vous sur le projet de Laura Drouet pour Pourquoi Princesse ?
Bravo Laura, moi je trouve ça absolument exceptionnel. Je pense que ça va bien au-delà de fonder une marque de vêtements. C'est un acte militant et nécessaire pour la société. Ça m'a rappelé une conversation que j'avais avec des enfants d'amis de l'âge de 5-6 ans et j'avais dit mais tiens, qui voudrait être astronaute parmi les filles? Et les filles et les garçons m'ont répondu bah non, c'est pas pour les filles. Voilà. Et ça c'est grave et donc merci de faire en sorte que nos enfants puissent tous avoir les rêves et les réaliser, quel que soit leur rêve. Donc, je vais acheter pour mes filleules et pour mes enfants des vêtements. Pourquoi Princesse ? Bravo à vous.
Et vous avez besoin de quoi, justement, Laura, pour continuer à vous développer ? Je crois que vous avez besoin de sous, notamment ?
Nous avons besoin de la visibilité. On cherche aussi des partenaires.
Ok, mais l'argent, on cherche des fonds quand même quand on se lance.
Et bien sûr, des fonds aussi.
Alors, combien ?
On cherche à lever en ce moment 300 000 euros. Justement parce que pour développer notre côté B2B et aussi pour pouvoir décliner le concept sur plusieurs métiers et sports.
Eh ben, on vous souhaite de lever vos fonds et d'aller au-delà même de 300 000 euros. C'est le moment de demander parce que voilà, après vous allez vous développer et vous pouvez voir plus loin. Parce que c'est ça aussi, la France bouge. Merci à vous Laura Drouet, vous êtes la cofondatrice de Pourquoi Princesse.
Et chers auditeurs, si vous avez envie de venir pitcher comme ça dans la France bouge, eh bien c'est très simple, une seule adresse mail pour candidater, e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France bouge. D'ici là, Nathalie Carré, on vous dit à demain.
Et Céline Lazorte, vous restez encore un tout petit peu avec nous suite et fin de notre émission. Vous êtes la fondatrice du mouvement Sista.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, dernière partie de cette émission de soutien à toutes ces femmes entrepreneurs et à toutes celles qui auraient envie de créer leur entreprise. Avec notre grande témoin du jour, Céline Lazorte, qui est la fondatrice du mouvement Sista.
Et notre société change, nos entreprises aussi. On le voit chaque jour dans La France bouge, les entreprises placent de plus en plus l'humain au cœur de leurs préoccupations. L'objectif, eh bien, c'est que les salariés se sentent bien au travail pendant cette période compliquée et puis que ça dure ensuite. Hein. Bonjour Remzi Curban.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de OEBA. Votre entreprise existe depuis 1976. Vous commercialisez, vous fabriquez, vous posez des escaliers sur mesure pour les particuliers, pour les professionnels. Ça se fait en ligne pour la France et aussi pour la Belgique. 54 salariés, vous êtes situé vers Orléans. Et si vous êtes en direct, là, en ce moment, dans la France Bouge, c'est parce que le bien-être de vos salariés est primordial pour vous. On l'a dit avec Emmanuel, vous offrez un jour de congé, le jour de l'anniversaire de vos salariés.
C'est ça. Alors, au-delà d'être primordial, c'est surtout l'ADN de l'entreprise. En fait, la recherche de solutions, d'idées concernant le bien-être, le fonctionnement de l'entreprise, nos organisations, etc., se fait toujours dans un cadre d'intelligence collective. C'est l'ADN même, encore une fois, de l'entreprise. Cette initiative de congé offert, mais également la machine à café gratuite pour tous, résulte de cette démarche. Donc notre quotidien est fait de beaucoup de négatifs depuis plus d'un an maintenant, et nous faisons notre maximum pour que ce négatif reste en dehors de l'entreprise. Et ces initiatives permettent de mettre effectivement du positif dans l'esprit des équipes et donnent aussi du sens dans leurs actions au quotidien.
Il est obligatoire ce jour, tout le monde le prend ?
Alors, il est obligatoire... J'ai envie de dire oui, j'ai eu encore aucun collaborateur qui a refusé cette journée.
Mais ils ont réagi comment ?
Alors déjà, quand on met en place ce genre d'action, j'attends pas forcément des remerciements. Alors effectivement, notre plus grande fierté, c'est de voir les sourires. Voilà, c'est de voir des équipes épanouies dans leurs actions, dans leurs tâches au quotidien. Donc forcément, ça a été accueilli de manière extrêmement positive.
Et comment ça se passe quand le jour de congé tombe sur un week-end, quand notre anniversaire tombe un samedi dimanche, on le récupère le vendredi ou le lundi ?
Ah non, ceux-là ils n'ont pas de chance malheureusement.
Ah.
Non, c'est pas vrai.
Oh, c'est pas
non,
cool,
non, je plaisante. Si cela tombe par exemple un week-end, un jour férié ou je sais pas pendant les vacances, eh bien vous pouvez prendre la journée d'avant ou d'après, la semaine d'avant ou d'après. En fait, la règle elle est très simple, c'est très libre. Le plus important est la satisfaction du salarié. Donc je vais vous donner par exemple, je sais pas, un exemple concret. La semaine dernière, l'anniversaire de Fabrice est tombé un jeudi. Mmh. Il n'a pas voulu prendre son jeudi. Il a tout simplement pris son vendredi pour bénéficier d'un long week-end en famille.
Céline Lazorte, vous êtes la fondatrice à l'initiative du collectif Sista. Qu'est-ce que vous avez le plus appris en créant toutes vos entreprises en tant que femme ?
Juste une petite précision, je suis la cofondatrice. On est plusieurs à l'avoir créé le collectif.
À l'initiative et plein d'autres personnalités. 22 femmes.
Non, mais moi, je trouve, vous voulez rebondir un petit peu sur le témoignage. Je partage beaucoup l'importance du bien-être au travail. Je pense que le dirigeant, il a cette responsabilité-là, ou la dirigeante, à la fois de créer un cadre favorable, de donner les moyens à ses collaborateurs d'apprendre et de faire grandir les parcours. Et je crois qu'en tant que dirigeant, c'est aussi une source de plaisir importante, le management, investir la relation avec ses collaborateurs, voir son équipe grandir. Et en fait, c'est ça qu'on retient. Et moi, après 12 ans de boîte, ce dont je me souviens, c'est les moments partagés, c'est les amitiés qui en sont nées.
C'est les moments informels, finalement.
Oui, et c'est de voir aussi ses collaborateurs grandir, évoluer, prendre des directions, quitter la boîte. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ces moments de vie qui sont importants.
Merci à vous. En tout cas, merci pour le témoignage de Remzi Curbon, directeur général d'OEBA. Merci à vous, Céline Lazorte. Vous faites partie des personnes qui ont lancé ce collectif Sista. On garde bien votre liste, 50 femmes patronnes en France. On va les inviter dans La France Bouge. Emmanuel, nous, on se retrouve demain.
Et justement, on a une femme demain, en plus également, qui viendra à votre place. Bah oui, on le fait quand même pas qu'une journée dans l'année, bien loin de là. On sera avec la patronne de Caudalie, Mathilde Thomas, super, qui sera notre invitée demain, célèbre marque de cosmétiques.
Restez sur Europe 1, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1 soutient les droits de toutes les femmes.
C'était La France Bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.